enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Aujourd'hui, mon thème sera une famille forte. En introduction, nous verrons que la famille est la volonté et l'initiative de Dieu. Puis j'aimerais voir 4 points avec vous. D'abord, faire un état des lieux, ce sera mon premier point. Deuxième point, les conséquences des nouveaux modèles familiaux que l'on nous propose. Troisième point, les raisons qui nous ont emmenés à cela. Quatrième point, les solutions proposées par la parole de Dieu. Et nous conclurons ensemble. Je vous invite à ouvrir la Bible et à prendre le texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Nous sommes dans la période de l'Avent et dans peu de jours, nous allons nous réjouir de fêter Noël ensemble. Fêter la naissance du Christ, la venue du Sauveur. Que lisons-nous ? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Noël, une fête bien-aimée, profondément spirituelle. Mais j'aimerais également me rappeler ce matin avec vous que Noël, c'est une fête profondément familial. Lorsque Jésus est né, j'aimais vous rappeler qu'il est né dans une famille. Et toute naissance produit une joie et la fête. Ou bien, lorsque ma première fille est née, c'était pour moi une explosion de joie. J'étais dans la salle d'attente, je tournais en long et en large comme un jeune lion. Et je disais, maintenant je suis père, maintenant je suis père, maintenant je suis père. Et bientôt, je dirais, maintenant je suis grand-père. Une joie. Jésus est né entouré d'un père et d'une mère. Jésus a été élevé au milieu d'une fratrie. Il avait des frères et sœurs. Et je désire au travers de cela, et au travers de cette fête de Noël, eh bien, fêter également la famille. Je crois que la famille, c'est quelque chose de fantastique. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose de parfait. Je n'ai pas dit que c'est toujours facile. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Même la famille du Seigneur, elle n'est pas parfaite. Il a de la patience, le papa au ciel. Mais cependant, il nous aime. Cependant, il t'aime. Cependant, il m'aime. Voyez, Dieu a tout mis en œuvre pour que Jésus ait un père charnel. Si Dieu avait voulu, il aurait pu inaugurer avec la naissance de Jésus la première famille monoparentale, une mère et un fils. Si Dieu avait voulu inaugurer une nouvelle forme de famille, il l'aurait fait ce jour-là. La première famille monoparentale seront nées Marie et Jésus. Mais Dieu va choisir une vierge et il veillera à ce qu'elle soit fiancée. Et c'est là qu'il va donner Jésus. Jésus naîtra. Et naîtra dans un foyer. Un foyer fait d'un homme, un foyer fait d'une femme. Depuis la genèse de l'humanité, eh bien, la famille se compose d'un homme, d'une femme et des enfants. Voyez ce qu'il est dit dans la genèse. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que c'est vrai, mes frères? On coupe ça à la télévision. Est-ce que c'est vrai, chers amis téléspectateurs, au masculin, je lui ferai une aide semblable à lui. Ta femme et ma femme, nous sont une aide. Genèse 2. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelle femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La famille n'est pas l'invention des humains. Elle est la volonté et l'initiative de Dieu. C'est lui qui crée le premier couple. Il lui prend une côte. C'est pour ça qu'en Alsacien on dit « Eroa rip ». Il lui prend une côte. Vous savez, un jour, un petit garçon qui était à l'école du dimanche et dont la maîtresse avait parlé sur ce texte rentre à la maison. Et puis il arrive chez lui et lui dit « Oh, j'ai mal là, j'ai mal ». Sa maman dit « C'est l'appendice ». Je sais pas, il est de quel côté au fait? Elle est à droite? Bon, c'est autre chose, je sais plus ce que c'est. Heureusement que je suis pas médecin. « J'ai mal, j'ai mal. » Elle dit « Tu t'es cogné. » « Mais non, maman, je ne me suis pas cogné. » « Mais quelqu'un t'a bousculé. » « Non, maman, personne. » »« On t'a donné un point. » »« Non, maman, j'ai mal là, juste là. »« Là. » »« Tu t'es fêlé une côte ?» Dit « Non, maman. » »« Je crois que je vais avoir une femme. » Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est produit. Adam fut quand même anesthésié, hein, puisqu'il s'endormit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Un couple, un homme, une femme, des enfants. La famille est le fondement de la société. Bien-aimée, elle est l'endroit où se développe le caractère des enfants. Elle est l'endroit où se développe l'identité des enfants, au travers du père, au travers de la mère. Elle est l'endroit également où tu vas, eh bien, cultiver tes futurs souvenirs. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de ma famille. J'ai d'excellents souvenirs de mon enfance. Tous n'ont pas été excellents. Tout s'est pas toujours bien passé comme je l'aurais voulu, mais j'ai d'excellents souvenirs. J'ai par exemple des souvenirs excellents avec mon frère Daniel. C'était fantastique. Je vais vous faire une confession ce matin. À l'époque, j'avais toujours peur d'aller aux toilettes. Vous savez, quand on est gosse, qu'il faut traverser un couloir, aller de l'autre côté, t'as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit. Puis un soir, je devais aller aux toilettes, je me disais, mince alors, c'est fichtrement embêtant, comment je vais faire, je dois aller aux toilettes, j'ai la trouille de sortir de la chambre. Ah. Et tout d'un coup, une idée géniale. Daniel dormait. Je me suis dit, si je fais pipi dans son lit... Moi, je serai lavé de tout soupçon, il sera le coupable. Chose dite, chose faite. Le lendemain, évidemment, ce pauvre Daniel, c'est pour ça qu'il est plus grand que moi, j'ai pas arrêté de l'arroser. Eh bien, s'est retrouvé dans une situation embarrassante qu'il ne comprenait absolument pas, et il eut droit au massage de ma maman. Mais enfin, le retour vint rapidement. Parce que quelques jours plus tard, Daniel, confronté au même problème que moi, inspiré par mon idée géniale, est venu me rendre l'appareil, mais non pas dans le lit, il a fait ça dans la table de nuit. C'est beau les souvenirs, ça fait du bien. Hein, mon frère, ma sœur, la famille c'est le plus bel endroit pour avoir de beaux souvenirs. Je ne vais pas vous dire que ces deux c'est les plus beaux, mais ça fait partie de quelque chose de piquant. Notre pays a compris que la famille était quelque chose d'important. Je remercie Dieu pour ce pays qui a développé les valeurs familiales, qui a soutenu la famille. Nous sommes soutenus en France comme nulle part ailleurs, au travers des allocations familiales, au travers des bourses aux études, au travers de la sécurité sociale, etc. On a favorisé pendant toute une époque cette politique. Cependant, je crains que si nous continuons comme ça, les choses soient remises en question. Lorsque vous prenez le dictionnaire, qu'est-il dit ? Dans le dictionnaire Hachette, vous lisez Et c'est la mise à jour de 1996, c'est pas le dictionnaire de Papa Jean, hein, qui lui a la mise à jour de 1780. Famille, ensemble de personnes formées par le père, la mère et les enfants. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Le couple, un homme et une femme, le mari et la femme. Aujourd'hui, pourtant, la tendance générale serait de vouloir présenter, proposer, voire imposer de nouveaux modèles familiaux comme si cela faisait partie d'un progrès. Il me semble que nous ne progressons pas, mais nous régressons. Voyez-vous, lorsque nous touchons à l'équilibre de la nature, de quelque moyen que ce soit, la pollution par exemple, nous sommes aujourd'hui confrontés aux trous dans l'ozone, à un réchauffement de la planète, se déclenchent des tornades, des typhons, il y a des invasions de criquets qui mangent tout à tout le monde là où ils passent. L'histoire dit que là où Attila passait, eh bien l'herbe ne repoussait pas, là où les criquets passent, il n'y a rien qui repousse non plus. Ils ravagent les récoltes en Afrique, ils sont arrivés jusqu'en Israël, en Australie ils les ont eus, et tout cela, c'est conséquence du réchauffement du climat qui est conséquent de notre pollution. Il y a donc toujours un effet pervers lorsqu'on touche à ce que Dieu a établi dans la nature, des conséquences vont arriver. Les catastrophes dont souffrent des millions d'êtres humains. Maintenant, bien-aimés, je vais vous dire que si nous touchons à l'équilibre de la famille, si nous touchons à l'équilibre de la famille, nous allons avoir des tempêtes sociales. Nous allons avoir des tornades sociales. Et nous allons avoir des victimes et des gens qui restent sur le carreau. C'est pas quelque chose que je prophétise, c'est quelque chose qui a déjà commencé. C'est quelque chose qui a déjà commencé et qui est devant nous. Les jeunes gens n'ont plus de repères. Que dit la Bible ? Proverbe 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Et c'est ce que nous sommes en train de constater, une société de plus en plus désordonnée, vivant dans le désordre, des familles vivant dans le désordre. J'aborde là mon premier point. Je voudrais faire l'état des lieux. Alors je le dis, je voudrais le faire avec beaucoup de compassion, de miséricorde, conscient que plusieurs, voire beaucoup d'entre nous peuvent être concernés par ce que je dis. Dans mon propos, il n'y a aucun jugement. Il y a simplement un désir d'honorer à nouveau la famille, de relever le défi de la famille et de vous encourager à vous battre pour vos familles. Et si peut-être votre famille a échoué, battez-vous pour que vos enfants réussissent. Battez-vous pour que vos enfants réussissent. On parle aujourd'hui de nouveaux modèles familiaux. Quels sont-ils ? Un premier modèle, je l'ai cité tout à l'heure, la famille monoparentale. Pour certains, c'est un choix. Ils ont décidé, et je me souviens quand j'étais à l'école, déjà des jeunes filles disaient « Moi, je veux bien être un jour enceinte, mais je veux surtout pas du père. » C'est un choix. D'autres vivent aujourd'hui une famille monoparentale malgré eux. Ils ne l'ont pas forcément choisi, mais a pu passer par là le deuil, ou a pu passer par là le divorce, ce qui malheureusement est très très souvent le cas. Est-ce que la famille monoparentale répond aux besoins de l'enfant ? Vous et moi, nous savons que non. J'ai vu des parents seuls me dire, « Pasteur, c'est tellement difficile d'éduquer ses enfants seuls. » J'ai vu des femmes me dire, « Je suis confronté à un problème avec mon fils. » Voilà que tout d'un coup, il commence à exercer l'autorité de l'homme qui n'est pas dans la maison envers ses frères et sœurs, mais également envers moi qui suis sa mère. Et je suis maintenant confronté à un adolescent qui commence à se prendre pour le père de la famille. Je ne sais plus comment gérer, je ne sais plus comment faire. De l'autre côté, j'ai vu des enfants qui sont nés dans une famille où le papa les a élevés tout seuls. Entre autres, des jeunes femmes qui m'ont dit, tu sais Samuel, chez nous c'était simple, il n'y avait pas de maman. J'étais la fille aînée, je me suis automatiquement retrouvée dans le rôle de la mère. Et je me suis vue voir toute mon enfance s'envoler, je n'ai rien vu de mon enfance. Je n'ai pas eu le temps de vivre mon enfance, je n'ai pas eu le temps de vivre mon adolescence, parce que je devais m'occuper de mes petits frères et de mes petites sœurs. C'est comme si on m'avait volé quelque chose. En plus, je n'avais pas de maman vers qui je pouvais aller pour pleurer et me confier. Mes amis, loin d'être un modèle, j'aimerais vous dire que déjà là peuvent naître des difficultés. Dans l'Écriture, les seules fois où Paul parle de ce genre de modèle, c'est quand il parle des veuves. Et là, il dit, et c'est une preuve que c'est difficile, qu'il faut soutenir absolument la veuve et l'orphelin. Pas seulement matériellement, pas seulement financièrement, mais l'assister dans le travail que représente l'éducation. Être là. Et l'apôtre Paul va même plus loin. Aux jeunes veuves, il dit de ne pas rester seul, il vaut mieux se remarier. C'est donc que la famille monoparentale est loin de répondre aux besoins profonds de l'enfant. Certains se retrouvent seuls aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont vécu un divorce. Encore une fois, mon thème n'est pas le divorce, mais je cite simplement, il y a des divorces qui n'ont pu être évités, et j'en suis pleinement conscient. Des femmes et des hommes se sont retrouvés là devant une évidence à laquelle ils n'échappaient pas. Mais il y a aujourd'hui le divorce par confort. Dans le passé, eh bien, on se mariait pour le meilleur et le pire. Aujourd'hui, on se marie pour le meilleur et quand le pire arrive, on se fait les valises et on part. Frères et sœurs, mon message à l'église ce matin, c'est refuser la séparation par convenance. Préférez vous battre pour sauver vos familles. Je sais de quoi je parle. Nous savons de quoi nous parlons. Nous avons dû nous battre et nous nous battons encore. C'est facile de partir. Mais les conséquences, nous ne les mesurons jamais. Savez-vous que les psychiatres disent que dans les meilleurs des cas, lorsqu'une famille se divorce, dans les meilleurs des cas, quand tout se passe bien, l'enfant met environ 10 ans à faire le deuil. 10 ans. 10 ans à faire le deuil. Si Dieu hait le divorce, c'est pas pour rien. Dieu ne le hait pas pour rien. Il dit dans Malachie 2, 13 à 16, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. » En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Et un peu plus loin, il dit, parce que, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Bien-aimé, je sais qu'il y a ici des victimes du péché, des victimes de situations qu'ils n'ont pas choisies, qui pleurent et qui n'auraient jamais voulu cela. Mais il y a peut-être tous ceux qui seraient tentés par convenance, par confort, de se séparer. Battez-vous. Relevez le défi. Si nous ne sommes pas capables de nous battre pour notre famille, comment nous battrons-nous pour le Seigneur? Comment vous battrez-vous pour Dieu que vous ne voyez pas si vous n'êtes pas capable de vous battre pour ceux que vous voyez? Je vais plus loin. Je n'ai pas le temps et je voudrais m'en excuser de développer. Forcément, quand on est court, on risque d'être caricatural. Si quelquefois je risque d'être caricatural, pardonnez-moi. Le temps imparti ne me suffit pas pour développer entièrement, mais pour vous donner de grandes lignes. Deuxième type de famille, c'est le résultat souvent de la première que je viens de citer, c'est la famille recomposée. La famille recomposée n'est également pas la famille idéale, même si parfois elle est le seul chemin. La famille recomposée pose d'autres difficultés aux enfants et aux parents. Aux enfants et aux parents. La famille recomposée peut se présenter de cette manière-là. Est-ce que... Tiens, Benjamin, tu viens? Est-ce que 2-3 personnes voudraient bien? Chalini, tu viens? Joseph et ta femme, venez. Oui. Alors, je vais voir si j'en ai assez. Toi, tu vas te mettre au milieu. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Et toi, ma sœur, là-bas. Bon, t'es censé être mon fils, mais bon. Ouais. T'es dû réorganiser ça. Donne-moi la main. Voilà. Voilà une famille recomposée. Notre enfant, ton enfant et mon enfant. Gérer cela, c'est un vrai casse-tête. Entre notre enfant, ton enfant et tes enfants ou mes enfants, il y a une lutte terrible. Et si je vous le dis ce matin, et si je vous le montre en image, c'est simplement pour que nous prenions conscience que quand Dieu donne un modèle, le modèle qu'il donne, c'est le seul qui soit valable. Amen. Non pas que les autres n'ont pas leur raison d'être. La famille recomposée a certainement sa raison d'être. Mais je le dis pour que ceux qui seraient tentés peut-être de se séparer par convenance réalisent, se remarier n'est pas facile. Recréer quelque chose n'est pas facile. Le nombre d'enfants, merci beaucoup, le nombre d'enfants que j'ai rencontrés qui m'ont dit « J'ai souffert avec ma belle-mère et j'ai souffert avec mon beau-père. » Le nombre de foyers dans lesquels il y a eu des tensions et des disputes terribles parce que tu ne touches plus à mon gamin. Hein ? Tu l'as touché parce que tu ne l'aimes pas. Si c'était le tien, tu agirais autrement. Mais comme c'est le mien, tu te permets de lui donner une gifle. Des tensions terribles, souvent de l'injustice qui naît. La famille recomposée, même si elle a sa raison d'être dans certains cas précis, est extrêmement difficile à gérer. Et j'aimerais dire à tous les jeunes qui sont ici, l'idéal que Dieu veut pour toi, c'est que tu construises un foyer qui dure toute ta vie. Maintenant, je crois que ceux qui se retrouvent dans cette situation, Dieu sait les secourir, Dieu sait également les aider. Et puis, nous avons un autre modèle familial, c'est les concubins. Vous le trouvez dans les fiches de sécurité sociale, tout, quand vous remplissez, concubins, etc., etc. Alors, les concubins, eh bien, la motivation de ces couples, lorsque vous l'examinez, est très souvent, dès le départ, contraire aux conditions nécessaires pour construire un couple et une famille forte. Je vais vous donner quelques arguments, je ne vais pas laisser longtemps là-dessus. Les arguments, je ne me marie pas, je veux garder mon indépendance et ma liberté. Vous avez déjà entendu ça ? En d'autres mots, quand tu m'intéresseras plus, ciao. Deuxièmement, ah vous savez, pasteur, non, on ne se marie pas, un divorce, ça coûte cher. Hein ? Donc tu te maries déjà avec la pensée du divorce. C'est fichtrement mal parti pour être solide, ton histoire. Troisièmement, non, pasteur, écoutez, je ne me marierai plus. J'ai déjà été trahi une fois, je ne pourrai plus jamais faire confiance. Alors le mieux, c'est de rester seul. Non, mais vous comprenez, ce n'est pas possible. Je ne suis pas en bois, pasteur. J'ai des hormones. Non mais enfin, c'est votre seule motivation, vos hormones. Attendez, ce n'est pas un objet que vous prenez. C'est quelqu'un de digne, qui doit être honoré. C'est scabreux. Quatrième chose que j'ai entendue. Je ne me marie pas parce que je ne veux pas qu'il ait quelque chose à dire à mes enfants. Ouh là là. Ne vous étouffez pas tout de suite, ma sœur. Là, le bonbon, il est au moins passé en entier. Hein. Et la dernière chose que je citerai, il y en a bien d'autres. Ma sœur, on ne peut pas se marier. Vraiment, on aime Jésus, on aime venir, là, c'est chouette, on aime cette louange, tout. Se marier, ce n'est pas possible. Donc, comprenez, attendez, vous êtes un homme intelligent. Il y a un homme qui m'a dit ça, vous êtes un homme intelligent, ça dépend qui vous demandez. Hein. Il me dit, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Vous voyez, je suis veuf et elle aussi. Et nous touchons une rente. Donc si on se marie, la rente de mon ex-bébère qui est mort, c'est dommage. Il dit, vous vous rendez compte, on peut d'autant mieux donner à l'église. Moi, ça ne m'intéresse pas. Lorsque l'argent est la motivation, c'est une des plus mauvaises motivations qu'il peut y avoir. Ça, c'est les modèles familiaux qu'on nous propose. Un jour, j'ai un petit copain qui arrive à la maison de mes enfants. Petit garçon, ils arrivent en voiture. Et puis, il arrive, il rentre, je dis « Salut !» Il me dit « Bonjour !» Je dis « Ah, papa t'a emmené ?»« Non, c'est pas papa, c'est mon troisième, attendez, c'est mon troisième, non, c'est mon quatrième beau-père. » Moi, je suis resté là. « Ah, monte, il t'attend. » Et je me suis dit, dans ma tête, qu'est-ce qu'un enfant comme ça peut penser de sa mère ? Première chose. Deuxième chose, comment un enfant comme ça va trouver l'équilibre dans sa vie en voyant des hommes différents défiler avec des noms différents, des noms de famille différents, des habitudes différentes, des exigences différentes ? Il y a de quoi y perdre son identité. Et ils la perdent. Et croyez-moi, ils la perdent. Loin d'être une solution, le concubinage crée des problèmes. Il a été prouvé que dans les milieux concubins, on se séparait 3 à 4 fois plus que chez les mariés encore. Donc ce n'est pas une solution. Loin de là, elle doit être proscrite, en tout cas pour les enfants de Dieu. Dernière chose, les personnes maintenant paxées, il faut qu'on en parle. Au Canada, le mariage homosexuel vient d'être voté, officiellement. Bien. En France, on ne parle pas de mariage, mais de paxage. Je ne sais pas si on dit ça. Écoutez, les spécialistes en général sont d'accord pour dire que c'est impossible qu'un enfant puisse trouver un équilibre psychologique en ayant deux personnes du même sexe qui l'élèvent. Impossible. J'ai du respect face à ces hommes et à ces femmes dans ce sens-là que Dieu les aime. Mais le péché, je ne peux pas l'avaliser. Et aujourd'hui, on est dans une société qui, quand elle tient un discours comme celui que je tiens, passe pour fondamentaliste, homophobe et je ne sais quoi encore. Mais je voudrais, aussi longtemps que je respire, pouvoir dire ce que je pense. Et dire que la parole n'a jamais prévu ces choses-là. Dieu ne nous a pas créés comme cela. Dernièrement, j'étais avec mon frère Reinhard Bonnke, vous le connaissez. Des journalistes l'ont interviewé. Et lui ont demandé, mais pasteur Reinhard, que pensez-vous de l'homosexualité? Et puis il leur a répondu simplement, écoutez, dès l'origine, Dieu a créé un homme et une femme pour qu'ils puissent se procréer. Et se multiplier et s'aimer. Mettez deux personnes du même sexe ensemble et elles ne procréaient plus. Et puis pendant qu'il parlait aux journalistes, il disait, Seigneur, donne-moi une image pour que par une image, ça leur parle. Vous savez, il y a parfois des images choc. Ah ben, je dois dire qu'il en a trouvé une choc. Il leur dit, monsieur le journaliste, écoutez-moi bien. Quand vous allez faire le plein de votre voiture, il dit oui. Vous allez à la station essence, il dit oui. Vous mettez l'essence dans quoi? Dans le réservoir. Pourquoi? Ben parce que la voiture était construite comme ça. Il dit, ben voilà. Voilà. Vous n'avez jamais eu idée de mettre l'essence dans le pot d'échappement. Parce que la voiture n'est pas faite pour ça. Hello! Le pot d'échappement, c'est le pot d'échappement. Le réservoir, c'est le réservoir. Chaque chose a sa place. On dirait que l'image vous a parlé. Chers amis téléspectateurs, je suivais l'autre jour une émission. Et l'émission, c'était des enfants nés sous X qui avaient un mal fou d'exister parce qu'ils cherchaient leur identité dans leurs parents, les racines. Ils ont fait des recherches, ils se sont décarcassés pour retrouver leurs parents, retrouver leurs frères, retrouver leurs sœurs. Ils avaient été adoptés dans des familles qui les ont aimés. Pourtant, ce retour à la racine, cette nécessité de connaître ses origines, cette nécessité de connaître ce qui est une partie de ce que je suis, les pousse à faire des recherches. Imaginez un enfant qui se retrouve avec deux personnes du même sexe. Vous croyez qu'il va comprendre? C'est qui papa? Ben, c'est moi. Et c'est qui maman? C'est lui. Franchement, mettez-vous dans la tête du gamin. Il doit se dire, ma maman, elle n'est pas faite comme les autres mamans. Il ne peut qu'être profondément perturbé. Et à un moment donné ou un autre, il va avoir besoin de retrouver ses racines. Il va avoir besoin de retrouver ce qui fait son identité. Nous sommes dans une société qui de plus en plus nous impose cela. Les émissions de télévision, les films nous présente cela de plus en plus comme la norme. Et ma crainte, c'est de voir beaucoup de croyants devenir très passifs face à ça. Des chrétiens même changer leur manière de voir les choses en disant finalement, frère, tu sais, s'ils s'aiment. Enfin, ma sœur, il n'est plus question d'amour là. Il est question de péché. Il est question de perversion de ce que Dieu a créé. Et je vais aller plus loin. Permettez-moi d'aller plus loin. Juste une réflexion. Tous les enfants, si un jour les choses devaient se faire, elles ne se font pas encore, je bénis Dieu pour cela. Mais imaginez qu'un jour ça se fasse, comme ça se fait déjà dans certains pays. Quand ces enfants seront psychologiquement perturbés, quand les problèmes viendront, parce que pour l'instant on ne les mesure pas les problèmes, c'est qui va devoir en subir les conséquences? C'est toute la société. C'est vous et c'est moi. Mais ce sera aussi nos enfants demain. Nous avons à dénoncer ces choses-là. Nous avons à donner une espérance à ceux qui sont pris et qui sont captifs. Nous avons à leur dire, il y a une solution pour vous. Mais en même temps, leur dire, la solution, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Conséquences. Je voudrais passer rapidement sur les conséquences, c'est mon deuxième point. Plus de notion d'autorité. Et c'est ce que les instituteurs peuvent maintenant constater dans les écoles. La police peut constater. Plus de notion d'autorité, de respect. Plus de notion de la famille comme un refuge. Regardez, dans certains quartiers maintenant, c'est le gang qui devient la famille. C'est dans le groupe de copains qu'on se retrouve chez soi. Et c'est à lui qu'on s'identifie. Certains ont comme héros des stars qui passent à la télévision complètement pervertis. Moi, je souhaiterais que nos enfants aient comme stars leur père et leur mère. Moi, je voudrais que chaque gamin soit fier de son père. Je peux vous dire une chose, et je le dis honnêtement ce matin. Je suis fier de mon père. C'est mon héros. Après Jésus, c'est mon héros. Papa Jean est mon héros après Jésus. Non, il lance pas d'étoiles d'araignée. Non, c'est pas Superman, mais c'est simplement Jean qui m'a aimé, qui m'a aidé, qui quand j'avais besoin était là pour m'encourager. Devenez les héros de vos enfants. Et je me dis aux enfants, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Vous vous rendrez compte que c'est pas facile d'être parent plus tard. Mais ça vaut la peine d'être soudés les uns aux autres. Conséquence, autre, perte de contrôle des enfants. Des jeunes gens, des jeunes filles en dépression, en psychiatrie, des drogués, des alcooliques, demandez ceux qui travaillent dans les maisons spécialisées. Ils voient une augmentation radicale de ce phénomène. La violence augmente dans les quartiers. Alors on nous dit toujours que c'est pour des raisons économiques. Non, non, il y a certainement des raisons économiques qui jouent. Il y a certainement la perte du travail qui joue. Il y a certainement des éléments qui jouent, mais ce n'est pas les seuls. Des familles désunies, des familles dans lesquelles il n'y a plus de repères, des familles dans lesquelles on ne se sent plus à la maison. Voilà une des sources essentielles de tout ce qui est en train de se vivre. Une sexualité débridée. J'ai affaire à des jeunes gens, c'est terrible. C'est terrible, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. L'autre jour, je parlais avec un homme. Je veux dire, malheureusement, particulièrement désaxé. Mais voilà ce qu'il me dit. Il me dit, vous savez, pasteur, dans ma tête, ça va mal depuis le jour où mon père a fait mon éducation sexuelle en m'emmenant chez une prostituée. C'était ma première expérience. C'était ma première expérience. C'était ma première expérience. Des pères qui disent, l'instruction sexuelle que je donne à ma fille, c'est un film porno. Et ensuite, vous avez des jeunes désorientés qui ne savent plus, pour qui l'amour n'est plus qu'une relation égoïste, parfois bestiale. Le suicide parmi les adolescents n'a jamais été aussi haut que cela. Savez-vous qu'au Japon, ils ont un terrible problème? Au Japon, le problème maintenant, c'est que les jeunes se suicident par groupe. Qui faut-il accuser comme secte? La société? Parce que cette fois-ci, ce n'est pas une secte qui est derrière. C'est le résultat d'un fonctionnement. C'est le résultat de valeurs qu'on a rejetées. Je voyais une émission dans laquelle ils montraient des jeunes japonais qui, eh bien, se cherchaient sur les sites internet, se fixaient rendez-vous à une heure précise pour se suicider ensemble. Le jour du rendez-vous, c'était la première fois qu'ils se voyaient, montaient ensemble dans la voiture et se supprimaient ensemble dans la voiture. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Et on ne pourra pas accuser telle secte ou telle autre secte ou tel gourou ou tel gourou. Nous ne pouvons que nous faire des reproches à nous-mêmes et dire parce que nous avons rejeté les valeurs divines, nous sommes en train d'essuyer les typhons et les tempêtes comme la pollution est en train de nous les amener dans la nature. Des parents de plus en plus fragiles, des professeurs confrontés à l'agressivité, à l'irrespect, les services sociaux dépassés, etc. La police qui tente d'intervenir, la justice qui essaie d'être de plus en plus dure, ça ne changera rien. La seule chose qui peut changer, c'est un retour aux valeurs. C'est un retour à la famille. C'est un retour à l'équilibre. C'est un retour à la parole de Dieu. J'aimerais dire à mon pays, j'aimerais dire aux gouvernants de mon pays, là-dedans vous avez la solution pour vos problèmes de quartier. Là-dedans vous avez la solution pour vos problèmes de suicide. Vous avez la solution. J'aimerais m'adresser pendant un instant à vous tous qui nous regardez, chers téléspectateurs. Il se peut que vous soyez actuellement confrontés à un fils, une fille, complètement détruite, et vous êtes conscient que vous avez votre propre responsabilité. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime suffisamment pour ne pas vous laisser dans cette situation-là. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime suffisamment pour vous sortir de là. J'aimerais vous dire que si vous avez le courage de revenir aux valeurs de la Bible, si vous avez le courage peut-être de changer de manière de vivre, si vous lui demandez sa force, il vous secourra, vous aidera et vous connaîtrez une réelle libération et un vrai changement. Vos fils et vos filles peuvent encore changer, ce n'est pas trop tard. Votre couple peut encore être sauvé, votre famille encore restaurée. Et j'aimerais y venir. Permettez-moi de sauter un point ce matin, le temps me manque. Je voulais parler des raisons qui emmenaient tout cela. En un mot, les raisons. Les raisons, c'est tout d'abord un abandon des valeurs que Dieu nous propose. En d'autres mots, ça s'appelle le péché. L'homme est le centre et toute l'organisation se fait autour de sa sensualité. Le deuxième problème, c'est que les familles se sont imaginées que plus elles auraient de moyens, plus les enfants seraient heureux. J'ai vu des familles modestes avec des enfants heureux. J'ai vu des familles riches dans lesquelles il y avait la division. Ce n'est pas une garantie. Si nous pouvons apporter quelque chose de ce côté-là, faisons-le. Mais ce ne sera pas la réponse. Permettez-moi de poser une question. Quelle somme d'argent peut remplacer une maman qui accueille ses enfants à la rentrée de l'école? Quelle somme? Quelle somme peut remplacer pour l'enfant la tarte qui sent bon quand il rentre? Quelle somme? Quelle somme, mes sœurs, peut remplacer la joie d'avoir un mari qui est épanoui à côté de vous et des enfants heureux? Quelle somme? Quelle maison, quelle voiture remplacera ça? Vous pouvez avoir de grosses voitures. Vos enfants sont plus à l'intérieur, ils traînent dehors. Je sais que certains sont condamnés à travailler, doivent le faire, je le sais. Je sais qu'aujourd'hui certains salaires ne suffisent plus, je le sais. Mais je sais aussi que nous avons parfois fait le choix d'un mode de vie qui nous oblige à courir tous les deux. Et à cause du mode de vie que nous avons choisi, on doit lever la petite à 6h le matin, la sortir dans le froid pour l'emmener chez la nounou. On ira la chercher à 18h. Et à 19h, il faut la coucher parce qu'à 6h demain, il faut qu'elle se lève à nouveau. Quel argent peut remplacer ta présence, maman? Je vais te dire, aucun. 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 Aujourd'hui, pour plus de rendement, la société est prise au piège. Nous sommes pris au piège. Regardez, pour plus de rendement, il faut travailler plus, différemment. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réorganisé le temps de travail, les équipes, les travails de week-end, les travails de nuit. Résultat, la famille se décompose. C'est des parents qui se croisent. Un est d'équipe du matin pour surveiller les enfants, l'autre d'équipe d'après-midi. Et on se croise, on se met des petits mots. La société elle-même, pour rester compétitive, est obligée maintenant. Alors on supprime les fêtes. On va supprimer des fêtes. On va travailler. Travailler pour ceci, travailler pour ça. Tout cela était censé apporter le bonheur à la famille. Résultat des courses, c'est la famille qui en souffre le premier. La raison, c'est qu'au lieu de laisser Dieu au centre, on a mis l'homme au centre. On s'est trompé. On a pensé que l'argent, le confort, allait combler nos enfants. C'est faux. Ce dont ils ont besoin, c'est de votre amour et de votre affection. Votre présence quand c'est possible. Loin de moi de culpabiliser ceux qui travaillent. Dieu sait, Dieu connaît votre situation. Mais si des jeunes ont des choix à faire, écoute bien, au lieu de construire une maison qui vaut 3 millions, construisez-en une pour 800 000 euros. Non, 800 000 francs. Pas 800 000 euros. Construisez-en une plus simple. Ah oui, c'est vrai, elle n'aura pas les arrondis. La petite tourelle, là, ah, il n'y aura pas de petite tourelle, non, non plus. Il n'y aura pas de piscine, non plus. Ah, ça fait rien, on s'en fiche de la piscine. Hein. On va aller avec nos enfants à la piscine. Plutôt que d'avoir les enfants seuls dans la piscine pendant que toi, tu trimes comme un galérien pour rembourser la piscine. Ah bon, oui, il n'y aura pas un garage pour 4 voitures. Ben, on se passera de 4 voitures. 2 suffiront. C'est déjà pas mal, 2. L'autre jour, mon épouse m'a rangé mes voitures. On en a 2 vieilles. Pas épouse, hein, voiture. Hein. Quand je voyais, il y en a qui me regardaient comme ça. Alors elle m'a rangé pour me rendre service, mais les voitures dans le garage. Et le matin, j'ai voulu partir, donc je suis arrivé à la voiture. Là, j'arrive pas à passer, je peux pas rentrer. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Je ne pouvais plus rentrer dans mes voitures, elles les avaient tellement bien garées. Ni à droite, ni au milieu, ni à gauche. J'ai dû l'appeler Dominique. We have a problem. On a des voitures, on ne peut plus monter dedans. Alors elle est passée par le coffre. Non, je vous dis, c'est beau la famille. Vous vivez des choses impeccables. Laissez-moi arriver, laissez-moi un peu passer rapidement les causes. Laissez-moi arriver à mon dernier point, les solutions proposées. Me laissez-vous encore 5 minutes. Claude, merci de me laisser 5 minutes. 9 minutes on m'a laissé. Merci. Solutions proposées. Et quand j'aurai terminé, n'oubliez pas la vente de charité. Hein. Solutions proposées. D'abord, je plaide ce matin pour une famille selon le modèle biblique. Pour certains, vous direz, mais frère, nous sommes déjà une famille recomposée. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inspire dans la gestion de votre famille. Mais à tous les jeunes qui sont là, je te dis, construis ta famille selon le modèle biblique et bats-toi pour cela. Écoutez-moi bien maintenant. Tout d'abord, je voudrais courtement aborder la fonction de l'homme et de la femme. La fonction sera déterminée par la place et le rôle que chacun va occuper dans le couple. Que dit l'apôtre Paul ? Je sais que je vais faire hurler certains, mais je le fais avec plaisir. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mes sœurs, écoutez bien ce que je vais dire. Je plaide pour des hommes qui soient de vrais chefs de famille. Je plaide pour des hommes qui ne soient pas des guimauves. Je plaide pour que les femmes n'aient plus à se plaindre de leurs maris qui ne prennent pas leurs responsabilités. Je savais que j'allais avoir des partenaires. Maintenant, écoutez bien. Le rôle est déterminé par ce que Dieu dit à la femme. Que lui dit-il ? Soyez soumise. Maintenant, ce verset a été repris par des machos qui en ont profité pour jouer au petit coq en lui disant « Tu dois m'être soumise. C'est moi le chef. » D'abord, pour être le chef, il faudrait le mériter. Pour être le chef, il faudrait remplir la fonction. Dieu n'a jamais amené l'homme à dominer sa femme, mais à l'aimer. Que voulait dire l'apôtre Paul ? En d'autres mots, et si vous creusez le texte, si vous allez plus loin, Paul dit « Femme, mettez-vous sous la protection de votre mari. » Yeah ! Du coup, j'aimerais être une femme. Mes sœurs, honnêtement, est-ce que c'est pas un rêve d'avoir un mari qui te protège ? Est-ce que c'est pas un rêve d'avoir un mari qui te protège matériellement ? Spirituellement, des sacrificateurs dans leur maison pour leurs femmes et leurs enfants. Des hommes et des femmes qui, des hommes qui pourvoient aux besoins affectifs de leurs femmes. Hello, mes sœurs. Est-ce que ça vous dit un bonhomme pareil? Des hommes à côté desquels vous vous épanouissez. Vous vous réjouissez de rentrer. Vous allez retrouver votre héros. Et tout le peuple dit Amen. Ouais. Frères, sœurs, je dénonce le machisme. Certains pensaient que je le suis pas. Mais je le dénonce. Par contre, je crois aux hommes qui sont prêts à protéger leur famille. Prêts à être comme Christ, se donner pour leur famille. Ensuite, j'aimerais dire, chères sœurs, je plaide pour que les hommes ne voient plus en leur femme une boniche, mais une femme de Dieu selon la Bible. Écoutez bien ce que je vais dire. Vous savez, certaines femmes, c'est vrai, j'arrive parfois dans certaines maisons, vous avez le mari qui vous accueille, « Bonjour frère !»« Bonjour. Ma femme là-bas. »«
Bonjour. »
Vous ne savez pas si elle fait partie des plantes vertes ou si c'est sa femme. On ne sait pas si c'est dans le décor que ça... Écoute bien. Yeah. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et maintenant, écoute bien, la femme, selon la Bible, c'est loin d'être bobonne à la maison. Écoute, sœur, mes frères, fermez vos yeux, ça va vous faire du bien. Et c'est de la Bible, hein ? Chers téléspectateurs, fermez vos yeux, écoutez, chers hommes. Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Son mari place sa confiance en elle, elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Après avoir bien réfléchi, écoutez bien, mes sœurs, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. C'est un vrai chef d'entreprise, là. Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Non pas devant Dallas. Palm Beach. Le loft. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a double vêtement. Elle se fabrique des tapis et porte des habits raffinés en lin pourpre. Son mari est un notable honorablement connu. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. Elle confectionne des vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands qui passent. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse. Elle sait donner des conseils avec bonté. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. Dominique ! Bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il, mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur, la beauté passagère, et c'est vrai. Attendez, parfois je rentre dans certaines maisons, en voyant la photo du mariage et en regardant le couple à ce moment-là, je me dis, c'est de la publicité abusive, hein. Ça passe. La beauté, ça passe. Tout ça, ça passe. Mais écoute bien maintenant. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Que l'on récompense sa peine, que l'on chante ses mérites sur les passes publiques. Moi, je me vois rêver un jour, être avec mes frères. Viens voir Jean-Claude. Viens. On va sur la place publique. Et puis on va comme ça ensemble. Dominique est merveilleuse, Christine est merveilleuse. Nous sommes les hommes les plus heureux du monde. Elles sont merveilleuses. Yeah! Est-ce que tu te réjouis pour ça? Moi je vois les frères qui sourient jusque-là. J'espère que vous n'avez pas de gerçure, hein. C'est des hommes qui protègent leur femme, qui la rassurent tellement qu'elle entreprend. Elle est courageuse. Elle est vaillante, elle y va, et leur mari l'appuie. Je termine. Un homme, une femme qui donne de bonnes priorités, je l'ai dit tout à l'heure. Préférez à votre confort la vie de votre famille. Un couple qui donne des valeurs à ses enfants et dont les enfants l'honorent. Et je terminerai en disant, mon frère, ma sœur, nous sommes en train de vivre un drame. C'est la famille qui se décompose. C'est également autre chose. Les fêtes de famille qui n'ont plus réellement lieu. Les anniversaires qu'on ne fête plus, on n'a plus le temps. On ne fête plus correctement Noël. Les fêtes de famille disparaissent. Quand je suis à Jérusalem, je vais vous dire ce qui me fait du bien. C'est d'aller au mur des lamentations. Et là, quand je suis au mur des lamentations, je vois le papa venir avec sa ribambelle d'enfants pour prier devant le mur. Et les enfants vont prier au mur. Je vois la maman aller de son côté au mur pour prier. Ensuite, c'est Shabbat. Ils retournent tous à la maison. À la maison, la maman a préparé une nappe blanche sur la table. On a mis les bougies de Shabbat. Toute la famille va se mettre autour. Ils vont d'abord prier, ensuite ils vont chanter, ils vont manger ensemble, ils vont célébrer Dieu ensemble en famille, et c'est une fête. Je rêve de retrouver des dimanches où les croyants rentrent à la maison, se retrouvent en famille autour de la table, rient, se réjouissent ensemble, chantent ensemble, où les parents prennent du temps pour parler avec leurs enfants, où les enfants prennent du temps pour parler avec leurs parents, où ces choses-là sont remises en place. Il y a 15 jours, 3 semaines, mes parents avaient leurs 50 ans d'anniversaire de mariage. Et on a eu à cœur quelque chose avec tous les enfants. On a eu à cœur de leur faire un cadeau. Des cadeaux, on peut en faire le cadeau qu'on a voulu faire. Et c'est la première fois qu'on le faisait comme ça. On a dit, on va se louer un endroit. Et c'était d'ailleurs la première fois qu'on manquait tous à l'église. Hein. Ne le faites jamais, vous. Non, c'était vraiment exceptionnel. On a loué une structure. On est arrivé le vendredi soir, on était les 32. Il y avait 4 générations. Le grand-père, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et pendant 3 jours, on est restés ensemble. On a ri, on a pleuré, on s'est réjoui, on a chanté, on a fait la fête ensemble. Ça a été tellement bien qu'on va fêter les 51 ans de mariage. Et on va refaire la même chose. Mon frère, ma sœur, faites ta famille, faites ta famille. Et c'est là ma conclusion. Je termine par cela. La chose la plus belle que Dieu vous a donnée après que vous l'ayez rencontrée, c'est votre famille. Prenez-en soin. Je plaide pour des couples qui se battent pour leur famille. Je plaide pour des hommes et des femmes qui ont compris que la famille a sa place et que certaines choses vaut mieux s'en passer que de perdre sa famille. Je plaide pour que nous revenions aux valeurs de la parole. Je plaide pour que nous donnions à notre société un autre exemple que celui qu'on leur donne. Je prie pour que l'Église devienne la lumière au niveau des familles et le sel de la terre. C'est mon désir le plus cher. Que Noël, pour vous, cette année, soit une fête en famille. Peut-être il y a des gens seuls. Alors que nos familles soient ouvertes. Et je termine, et c'est mon dernier mot. Fêter la famille, est-ce abandonner l'œuvre de Dieu? Est-ce négliger la maison de Dieu? Non, c'est atteindre l'objectif suivant, puis-je vous le dire? L'objectif de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.